Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Nous revenons sur cette question fondamentale. Et dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous nous appuierons sur l'enseignement de l'apôtre Paul, et notamment sur le verset suivant.
Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Christ.
Vous venez d'écouter le troisième verset du chapitre 1 de l'épître que l'apôtre Paul a écrite à l'église d'Éphèse. Antoine est parmi nous pour nous aider dans notre compréhension de cette question importante. En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Bonjour Antoine.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Nous allons nous pencher sur Éphésiens chapitre 1 afin de comprendre plus en détail les bénédictions que Dieu accorde à ceux et celles qui sont en Christ. Commençons par la lecture du verset que nous avons abordé la dernière fois. En Éphésiens, chapitre 1, verset 7.
En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse.
Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le sens d'une bénédiction mentionnée dans le verset lu. Paul affirme, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. D'autres versions de la Bible traduisent « nous sommes rachetés ». L'idée est celle de la rédemption.
La rédemption est un mot dont certains ignorent peut-être le sens. Que signifie-t-il?
Oui, ce mot biblique est riche en sens. Nous allons chercher à le comprendre dans le contexte de l'époque de Paul. Deux illustrations nous aideront à saisir l'importance de la rédemption.
Et quelle est la première illustration?
Sous l'Empire romain, l'esclavage était couramment pratiqué. Certains devenaient d'ailleurs esclaves du fait de leur endettement. Ainsi, si vous étiez dans l'impossibilité de rembourser une dette à un créditeur, celui-ci avait le droit de vous prendre, vous et votre famille, pour faire de vous ses esclaves. Une fois esclave, il était impossible de s'affranchir par ses propres efforts. Cependant, si quelqu'un d'autre, peut-être un membre lointain de votre famille, venait payer votre dette à votre place, il obtenait alors votre liberté. Vous étiez ainsi racheté et libéré de votre servitude pesante.
Et quelle est la portée spirituelle de cette illustration ?
Répondons à cette question par une autre illustration. Il s'agit d'une parabole racontée par Jésus en Matthieu chapitre 22, versets 23 à 27.
En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et, se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout ». Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette.
Par cette parabole, Jésus voulait souligner le fait que nos fautes commises représentent devant Dieu comme une montagne de dettes impossible à rembourser. En fait, la dette dans cette parabole est si énorme qu'il aurait fallu, en se basant sur le salaire d'un serviteur, des milliers d'années pour la rembourser. Or, le roi décide lui-même d'annuler la dette de son serviteur. Ce dernier devient ainsi libéré de toute obligation à son égard.
Alors qu'en fait, dans les coffres du roi, il manque toujours ses 60 millions de pièces d'argent.
Oui, on peut dire que le roi lui-même a payé de ses propres deniers le prix de rachat de son serviteur. Et pour revenir au sens spirituel de la rédemption et au verset cité en Éphésiens 1, nous pouvons affirmer que c'est Jésus qui, par son sacrifice sur la croix, a payé notre prix de rachat. Nos fautes et nos offenses sont comme des dettes amassées devant Dieu. Nous ne pourrons jamais les rembourser. Même nos meilleurs actes de piété, même les meilleures œuvres que nous pourrions accomplir, ne contribueront jamais à réduire cette masse de dettes.
Notre situation semble désespérée.
Elle le serait, mais Christ est intervenu. Il est notre Rédempteur. Il est venu pour payer lui-même le prix de notre rachat, et ce prix fut fort coûteux.
Oui, suspendu sur la croix, Christ a payé notre dette de son propre sang. Il est mort en sacrifice, en effet, pour nous libérer.
C'est exact, Yann.
Tout à l'heure, vous avez parlé de deux illustrations qui nous permettront de bien comprendre la rédemption. Quelle est la deuxième?
Nous allons prendre notre deuxième illustration dans l'histoire du peuple d'Israël. À un moment donné, le peuple d'Israël a été réduit à l'esclavage en Égypte. En ce pays, il souffrait terriblement de l'oppression et de l'exploitation. Cependant, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, libéra son peuple. Toutefois, une lutte acharnée se déroula auparavant entre le Pharaon et Dieu, car ce chef défiait le Tout-Puissant. Dieu soumit de ce fait le pays d'Égypte à une suite de fléaux effroyables pour prouver que les soi-disant dieux égyptiens étaient vraiment impuissants. Pour finir, Dieu annonça par la bouche de son serviteur Moïse qu'il y aurait un dernier fléau bien pire encore que les précédents. L'ange de la mort allait passer pour prendre tous les premiers-nés d'Égypte, qu'ils soient hommes ou animaux. Pour se protéger d'un tel fléau, Moïse donna l'ordre suivant aux Israélites. Chaque famille devait sacrifier un agneau sans tache ni défaut et asperger son sang sur le cadre de la porte d'entrée de leur maison. Puis l'ange de la mort passa par-dessus les maisons, là où il vit le sang de l'agneau. Tous les premiers-nés mâles se trouvant dans ces maisons furent épargnés, tandis que les premiers-nés résidant dans les maisons égyptiennes où le sang n'avait pas été aspergé sur les portes, moururent. Durant toute la nuit, des cris et des lamentations se levèrent partout en Égypte, et le Pharaon, las et vaincu, finit par laisser le peuple d'Israël quitter son pays. Ainsi, grâce au sacrifice d'agneau, le peuple d'Israël fut libéré de la domination du Pharaon, délivré de l'esclavage, épargné d'une mort brutale et immédiate. Il fut retiré d'un environnement extrêmement idolâtre. Et depuis ces événements épiques, on parle de la rédemption d'Israël pour indiquer de quelle manière Dieu est intervenu en faveur de son peuple.
Mais quelle est la pertinence de ces événements pour ceux et celles qui sont rachetés en Christ?
La première illustration nous permet de conclure qu'en Christ, nous sommes libérés du poids de nos fautes. Cependant, en puisant dans l'histoire du peuple d'Israël, nous pouvons constater que le sens du mot « rédemption » est beaucoup plus large, et nous pouvons ainsi établir quelques parallèles entre la rédemption d'Israël et celle de l'Église.
Expliquez-vous davantage, s'il vous plaît.
Remontons au début des temps. Du fait de la désobéissance d'Adam et d'Ève, Dieu soumit la race humaine à plusieurs malédictions. De ce fait, parce qu'Adam et Ève s'étaient laissés influencer par le serpent, Dieu permit aux puissances maléfiques de dominer sur les hommes et sur les femmes. Puis Dieu confirma, comme il l'avait déjà averti, que tout ce qui vit sur la terre allait mourir un jour. À l'époque de Moïse, le Pharaon et la religion égyptienne étaient des manifestations du mal. Le peuple d'Israël vivait sous le joug de ce mal et de ces puissances maléfiques qui manipulaient et dominaient tous les habitants, avec pour outil une religion idolâtre et superstitieuse. Cependant, l'Éternel Dieu a vaincu ces idoles, et par le sacrifice des agneaux, le peuple d'Israël a pu être protégé de la mort et se libérer de la domination des pouvoirs du mal.
Quelle est la pertinence de tout cela pour l'église d'Éphèse et pour nous?
La ville d'Éphèse était très connue pour avoir recours à une religion idolâtre. La débauche, la prostitution et l'immoralité couramment pratiquées étaient fortement liées au culte voué au dieu Artémis. La pratique de la divination et de la sorcellerie y était chose courante. Or, beaucoup de croyants d'Éphèse venaient de cet arrière-plan idolâtre. Et tous vivaient dans cet environnement pesant et obscur. Ainsi, il était pertinent et rassurant pour ces croyants de comprendre que la rédemption inclut aussi la délivrance des puissances occultes et maléfiques.
Et ces mêmes vérités sont pertinentes et rassurantes pour ceux qui de nos jours vivent dans des cultures où toute pratique idolâtre et la sorcellerie sont courantes.
C'est exact, Yann. Par son sacrifice sur la croix, Jésus a obtenu notre rédemption, notre délivrance de la domination de Satan. Tout esclavage dû aux pratiques occultes, idolâtres et ténébreuses peut être brisé lorsque nous appartenons à Jésus. Bien sûr, nous vivons dans un monde encore sous le pouvoir de Satan, et il est vrai qu'il peut essayer de s'attaquer aux chrétiens de diverses manières, tout comme le pharaon a tenté de poursuivre le peuple d'Israël jusque dans le désert. Oui, le pharaon a harcelé le peuple libéré et il voulait l'anéantir. Mais vous savez sans doute, Yann, quelle fin il a rencontré.
Oui, l'éternel Dieu fraya un chemin pour le peuple de Dieu à travers la mer Rouge. Là, il sépara les eaux, permettant ainsi le peuple d'Israël de fuir devant ses poursuivants. Puis, quand les Égyptiens les poursuivirent, les eaux se refermèrent sur eux pour engloutir et anéantir cette puissante armée. Et le Dieu Tout-Puissant triompha de ses ennemis.
Et de la même manière, Satan peut harceler le chrétien et lui faire peur. Toutefois, quand nous vivons avec Jésus, ses pouvoirs sur nous sont limités et il est possible de les briser du fait de la protection de Dieu sur nous. De plus, en Christ, nous avons cette assurance que le jour viendra où sa victoire se vivra de façon finale et définitive. Car lorsque Jésus reviendra pour nous ressusciter et créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Satan et toutes les puissances maléfiques en seront exclues. Dès lors, ils n'exerceront plus jamais aucune influence sur nous. Et ces bénédictions en Christ dépassent de loin en valeur tout ce que le monde peut nous offrir. En attendant notre prochaine émission, je vous dis à tous au revoir.
Merci Antoine. Devant la grandeur et la beauté de ces bénédictions, nos voix se joignent à celles de l'apôtre Paul pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.